Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un air de viking avec, comme une retenue menaçante, une noirceur magnifiée par une présence de grand fauve. Et cette intelligence perçante qui se pare de lassitude comme un détachement souverain alors que tout brûle en lui. Nils Arestrup a la densité d'un talent monstre. Il est à l'affiche du nouveau film magistral et vénéneux de Bernard Stora, Villa Caprice, qui sort en salle mercredi avec Patrick Bruel, Michel Bouquet, Irène Jacob, Paul Amy et Laurence Stocker. Bienvenue, Nils Arestrup.
Merci de m'accueillir.
Nils Arestrup, Villa Caprice est inspiré d'un fait réel très intrigant. Il y a quelques années, l'un des avocats d'affaires les plus puissants de France, alors au fait de sa gloire, se suicide. Rien dans sa vie, dans sa carrière, dans son intimité ne peut laisser prévoir un tel acte. Il y a là bien sûr matière à un film et à respirer les effluves empoisonnées du pouvoir, car le pouvoir et la partie en fait qu'on est prêt à jouer pour le garder sont au cœur de cette histoire. Mais peut-on défendre le pouvoir sans réellement appartenir à son monde ?
Alors, je ne fréquente que très peu la justice et très peu les avocats, et je ne répondrai que intuitivement à cette question. Je crois qu'il y a des rapports évidents entre la politique, entre les avocats et les comédiens. Il y a une constante là-dedans. Là, c'est la constante du jeu. C'est-à-dire que un avocat joue quelque chose. Il joue quelque chose à l'intérieur de lui-même et il joue quelque chose avec le client, en face des jurés. L'homme d'affaires joue quotidiennement sa vie, son rapport aux autres. Et les comédiens, bien entendu, font ça aussi tout le temps. Et donc, ces rapports entre un homme politique et un avocat sont des rapports moins inattendus qu'on pourrait le penser. Et je pense qu'ils savent de quoi il est question. D'ailleurs, dans le film, l'avocat l'exerce et lui apprend à essayer d'avoir un discours clair et sans faille, afin de ne pas laisser le juge entrer dans la moindre de ses failles. Et c'est, voilà, je crois qu'il y a une familiarité de langage, en tout cas, entre un avocat, son client et les acteurs, je crois.
Alors, Patrick Bruel, dans Villa Caprice, incarne ce grand patron milliardaire qui vous choisit, vous, donc l'avocat des puissants. Chacun est au sommet de sa réussite, de son art, règne sur ces terres. Ils sont donc vraiment faits pour se mesurer l'un à l'autre. Mais en fait, celui qui retombera sur ses pieds est celui qui ne mettra aucun affect dans cette histoire.
Là, donc, vous pensez que l'homme d'affaires ne met aucun affect dans cette histoire.
En tout cas, ne laisse rien entrevoir de ce qu'il est véritablement.
Bien sûr, c'est un joueur. Quand on arrive dans les hauteurs ou dans les sommets de l'affairisme, de l'argent, de la puissance, on sait très bien que un des ressorts essentiels, c'est la manipulation.
Mais oui.
Et donc, il a cette habitude-là, il a presque ce réflexe-là de manipuler les gens qui sont en face de lui. Je crois, hein. Et donc, l'avocat, lui, n'est peut-être pas préparé mentalement à la même chose, puisqu'il est l'avocat de cet homme. Normalement, il s'agit d'une histoire de confiance, il s'agit d'une histoire de respect mutuel. Et en fait, petit à petit, mais ça on le verra dans le film, il va se retrouver enserré dans les raies que cet homme d'affaires va tracer autour de lui.
Oui, parce que en fait, ce sont les zones d'ombre de l'intimité de votre personnage, Nils Arestrup, qui vont permettre cette manipulation, puisque sa vie privée, elle est complexe, elle est ambiguë, avec des pulsions non assumées. Mais alors, comment un homme aussi retors, aussi craint, aussi expérimenté à sonder quand même les dédales de l'âme humaine, peut-il être aveuglé dès qu'il s'aventure dans des zones qui ne sont plus régies par les lois ? Parce que vous semblez invincible au début du film.
Oui, en effet, je crois qu'il a un esprit compliqué, sans doute aussi une vie compliquée. Mais je crois qu'il n'est pas retors. Il est l'avocat de cet homme, il a l'habitude de cette fonction, et donc il donne tout pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver chez cet homme. Parce qu'il y risque quand même assez gros. Quand un homme d'affaires est soudain précipité dans les médias, comme ça, exposé, c'est quand même évidemment très dommageable. Et donc, non, l'avocat ne se méfie pas du tout. Il va découvrir petit à petit, comme sur un chemin secret, comme ça, des signes. Mais il ne les lit jamais comme il devrait les lire.
Mais pourquoi ?
Parce qu'il a confiance, je crois. Il sait que cet homme qui est en face de lui dépend de lui. Il a une espèce de douceur, a priori, comme ça. Envie de faire des confidences, envie de parler avec cet avocat, enfin que cet avocat le connaisse mieux. Il y a un côté boa constrictor, quoi. Il l'enferme, il l'encercle petit à petit, mais l'autre ne peut pas imaginer un quart de seconde qu'il veut l'étouffer.
Bien sûr. Alors
c'est
vous évoquiez cette propriété qui est prodigieuse, hein, la Villa Caprice surplombant la Méditerranée, comme une citadelle inviolable, bon, d'une beauté et d'une majesté presque angoissante. D'ailleurs, elle a la démesure des rêves de certains hommes, n'est-ce pas ?
Peut-être. Moi, je ne connais pas tout ça. J'ai été très étonné par la force de cette propriété. D'ailleurs, Bernard Stora a insisté beaucoup pour que le titre du film soit le nom de cette villa.
Oui,
Caprice.
Oui, oui.
Un caprice de milliardaire qui s'achète des propriétés un peu partout dans le monde. Et oui, c'est vrai que c'est une maison pleine de beauté, mais qui n'est pas forcément charmante.
Nils Aristrup, Patrick Bruel, Michel Bouquet, Irène Jacob donnent vie à cette histoire magistralement vénéneuse, filmée par Bernard Stora. Et vous savez ce qui est formidable ? C'est qu'on retrouve tout de suite Nils Aristrup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Nils Aristrup, Villa Caprice a été tournée il y a presque 2 ans, hein, mais bon. Le monde ensuite s'est arrêté pour cause de confinement. Le personnage de Germont, l'avocat donc, que vous avez incarné, est toujours quelque part en vous. C'était il y a 2 ans le tournage.
Très franchement, non. J'ai cette chance-là, ou cette hygiène-là, ou cette capacité-là, de me débarrasser très très vite des pensées d'un personnage, ou de ses préoccupations.
Alors, intéressons-nous à votre histoire, à vous, Nils Aristrup. Vous avez vu le jour parce que votre père, danois, voulait gagner les États-Unis par un bateau amarré au Havre, baptisé d'ailleurs le Liberty, promesse magnifique. Pour ça, il devait prendre un train Gare du Nord. Il avait une journée devant lui avant que ce bateau ne largue les amarres. Mais en une journée, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, on peut rencontrer l'amour, c'est ça ? C'est ce qui est arrivé à votre père. Il n'est jamais parti pour les États-Unis.
Non, ça, il est jamais parti. Il est resté. C'était la première fois qu'il mettait les pieds à Paris, d'après ce qu'il m'a raconté. Et il voulait en effet partir aux États-Unis. Il voulait partir à New York, tenter la grande aventure. C'était au début de la guerre, dans les années 40. Le Danemark avait été envahi quelque temps avant la France. Et donc, il était dans cette... envie-là, dans cette espérance-là, d'aller de l'autre côté de l'océan. Il n'avait jamais été à Paris, il s'est dit, quand même, je vais faire un tour, j'ai marché un peu, puisque j'ai une heure devant moi, il a marché un peu. Je crois qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était la France, ou de ce qu'elle pouvait vivre quelques semaines plus tard.
Oui.
Et donc, il y avait un bistrot, où... il essayait de commander très difficilement, parce qu'il ne parlait pas un mot de français, un verre de Bordeaux. Et en face de lui, dans ce restaurant, il y avait une femme qui était ma mère. Et voilà, il n'est plus jamais parti. Je ne sais pas s'il en a été toujours complètement heureux, s'il n'a pas regretté les États-Unis, mais voilà, c'était mon père et c'était ma mère. Mais c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup marqué. Cet accident pendant une heure d'une vie, une heure pour boire un verre de Bordeaux.
Mais c'est une scène de film.
Oui, c'est une scène absolument de film. Dieu merci, je n'ai pas du tout envie que ça se tourne. C'était leur histoire.
Mais Nils Aristrup, si votre père avait convaincu votre mère de partir avec lui, c'est peut-être... sous la direction de Scorsese, que serait destinée votre carrière. Je dis ça car, pour votre rôle dans Un prophète de Jacques Audiard, l'Association des critiques américains vous a attribué, leur prix annuel du meilleur second rôle, une distinction que très très peu de non-américains ont reçue dans leur vie. Donc, votre passion, peut-être, l'auriez-vous exercée là-bas, aux États-Unis ?
Peut-être, mais c'était pas... Voilà, ma mère travaillait, ma mère était mariée, donc elle n'a pas envisagé de partir. Il s'est dit, moi, je peux bien m'offrir encore une semaine à Paris, c'est pas très grave, et puis je prendrai l'autre bateau, et puis bon. Moi, par contre, je sais que mon père, après, n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Parce que c'était son rêve et qu'on ne met jamais ses pieds sur un rêve. Et donc, moi, je rêvais toujours de, au moins d'aller faire un tour, d'aller voir New York. Et je l'ai réalisé assez tard aussi. Et
pour qu'on comprenne bien, en fait, votre histoire, j'aimerais qu'on éclaire un chapitre particulier qui est la fin de votre adolescence. Il paraît, Nils Sarrestrup, que comme vous n'aviez aucun goût pour les études, votre père vous avait suggéré, vous avez proposé de travailler en usine comme lui. Je voudrais savoir ce qui vous a retenu d'accepter alors que, à cette époque-là, vous n'aviez pas la vocation d'acteur.
Non, pas du tout. C'est un accident historique. C'est 1968. C'est-à-dire que je devais, à la fin, après avoir lamentablement raté le bac, qui était pourtant pratiquement offert à ce moment-là, j'allais rentrer à l'usine où travaillait mon père. C'était prévu comme ça depuis longtemps.
C'était prévu comme ça depuis longtemps.
Bien sûr. C'était une espèce de facilité, une offre évidente. Voilà, d'être ouvrier dans cette usine, c'était les usines Testule. On construisait des balances et des pèse-personnes. Mon père était chef d'atelier là-dedans. Et voilà, tout roule, quoi.
Mais vous dites non.
Et je ne dis pas non, c'est 68 qui dit non. C'est cette usine qui se met en grève comme les autres. Et 68, pour nous qui habitions en banlieue, c'était un peu loin. Un peu un truc d'intellectuel, d'étudiant, comme ça. Et là, d'un seul coup, dans cette espèce de vide, dans ce trouble, dont ceux de ma génération qui ont connu ça se souviennent sûrement, de cette perdition. Et où ça va? Où ça va? Voilà, un soir à la télévision, j'ai vu une femme, qui était Tania Balachova, qui était un professeur d'art dramatique. Et j'ai été séduit, pas par l'idée de faire du théâtre, puisque j'y connaissais rien et que j'avais rien lu, mais par son regard.
On va parler de Tania Balachova. Rencontre essentielle, n'est-ce pas, dans votre parcours. On retrouve tout de suite Nils Sarrestrup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Mercredi sort en salle Villa Caprice, un film de Bernard Stora magistralement porté par Nils Sarrestrup et Patrick Bruel. Nils Sarrestrup, cet après-midi, mon invité, cher Nils. Est-il vrai qu'un jour, le professeur de théâtre Tania Balachova, que vous venez d'évoquer à l'instant, vous a lancé en plein cours, bon, Sarrestrup, je ne peux rien vous dire de particulier. En fait, vous êtes un acteur. Voilà, vous êtes un acteur, comme l'étaient Pierre Brasseur, Michel Simon, Pierre Freinet. Vous n'y êtes d'ailleurs pour rien, mais c'est ainsi. Vous êtes un acteur. Et un jour, si un peu de chance s'en mêle, et ben vous jouerez de grands textes. Elle vous a dit ça quand vous aviez 20 ans?
Oui, c'était en 69, oui, j'avais 20 ans. D'abord, évidemment, il y a des étapes avant ça.
Bien sûr.
Elle voyait un mec qui était là, un peu au fond de la salle, et qui ne passait jamais de scène, qui revenait tous les samedis. Donc, à un moment, forcément, elle s'est approchée pour dire « Vous ne pouvez pas rester là, regarder vos camarades monter sur scène. Ici, on est obligé de prendre le risque. Et donc, si vous voulez rester dans cette école, vous devez me passer une scène la semaine prochaine. » Et je ne savais pas du tout quoi passer, je ne connaissais pas beaucoup de textes. Et il y avait un copain qui était à côté de moi, assis aussi un peu au fond, et à qui j'ai posé la question, est-ce que tu vois un truc qu'on pourrait travailler? Et il m'a proposé Caligula, de Camus.
Vous n'aviez jamais lu Camus?
Ah non, non, je ne savais pas qui c'était du tout. Non, non, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais loin, quoi. Et donc, on a travaillé pendant une semaine, comme ça, chez lui. Et puis, le samedi suivant, il fallait y aller.
Alors, ça a été une curieuse naissance au monde, cette première fois où vous avez défendu un rôle, avec tous ces yeux braqués sur vous. On se découvre en même temps que les autres vous découvrent.
Oui, mais cette sensation-là, je crois que je l'avais déjà eue un petit peu au lycée. Parce que vous savez, au lycée, on, parfois, un prof de français un peu plus risqué que les autres décide de monter un texte ou de faire une petite pièce de théâtre qui va jouer dans le hangar. Et j'étais déjà monté sur une scène, cette scène-là. Et j'avais eu cette sensation, beaucoup d'acteurs ont parlé de ça, de ne plus avoir peur. Mmh. Alors que j'étais quand même plutôt affolé, quoi. Et donc, lorsque j'ai passé la scène devant Tania et qu'elle a eu la gentillesse, en effet, de me faire ses compliments, je m'étais déjà baigné dans la mer. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça et ça dure, depuis 52 ans.
Alors, il y a une singularité dans votre jeu, Nils Sarrestrup, sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête. Personne ne maîtrise les silences comme vous. Et ce sont des silences magnétiques. Peut-être qu'on vous en parle souvent, mais franchement, le spectateur attend en apnée. C'est tout un art de rendre les silences aussi signifiants que des dialogues.
Il y avait un jour, un soir, sur une chaîne de télévision, Canal+, une émission, c'était au tout début de Canal, hein, où il y avait une jeune femme, je ne me souviens pas de son nom, qui présentait une espèce de talk show, comme ça, le soir, avec des invités, et qui s'était prise d'une idée, ou alors c'était son rédacteur en chef qui avait eu cette idée, de présenter un numéro avec un fauve, avec un lion, un vrai, et qui allait être dressé devant nous par son dresseur. C'était un lion professionnel, entendons-nous bien, c'est un acteur en même temps, il avait déjà joué dans des films. Il était un des rares lions qui avait une certaine sécurité, où on pouvait tenter de le mettre libre en face des gens, en face d'une soixantaine de personnes qui étaient sur des gradins. Et après la pause publicitaire, la jeune femme nous a dit « Et maintenant, je vais vous demander de rester silencieux, de ne pas crier, de ne pas... » Et on va voir le travail de monsieur, le dresseur, qui était un dresseur très connu. Et donc la caméra s'est tournée vers une cage où il y avait une espèce de drap comme ça dessus que quelqu'un a soulevé. Puis on a fait tourner la porte, la grille, et la chose est rentrée sur le plateau. Au bout de deux pas, le lion, ce lion qui était pourtant habitué, mais peut-être pas à avoir autant de gens, a tourné la tête vers les gens qui étaient assis à sa droite. C'était filmé en gros plan. Et on a senti, mais véritablement, physiquement, qu'à cet instant-là, tout était possible. Il pouvait aussi bien se jeter dans la foule, retrouver son instinct
premier. De félin.
Vraiment, je m'en souviens très très bien. On a senti qu'il pouvait arriver quelque chose de totalement inattendu, de tellement grave. Et pourtant, il était dans ses marques.
Et pourtant, il a continué à marcher.
Oui, c'était le silence. Et ensuite, il a continué à marcher. Quelques pas plus loin, il a tourné la tête vers ceux qui étaient à gauche. Et puis, il s'est couché sur sa plaque, il est parti, il est sorti. Et c'était très palpable, ce risque, ce danger. Et le dresseur lui-même, d'ailleurs, dans les commentaires après, a dit « plus jamais je referai ça ». Je pensais que tout était bien préparé. Il avait eu une envie. Et son silence, son regard et cette envie, qui n'avait rien à voir avec ce qui était prévu, c'est pour moi un secret pour les acteurs. C'est-à-dire que quand tu es sur le plateau, quel que soit le parcours que tu as déjà répété, que tu connais par cœur et tu sais très bien où tu vas, il faut que tu aies le courage de vivre dans l'instant et d'avoir des tentations.
Oui.
Et d'avoir des envies qui n'ont rien à voir avec tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été répété. Et cette sensation, cette notion-là, un peu particulière, qui fait qu'un acteur, quand il est sur un plateau de théâtre, doit avoir la délicatesse de faire penser qu'il ne va pas y rester, qu'il va partir. C'est un truc, ça, en fait. Ça crée une attention particulière du public. Si vous êtes là, tout va bien, vous êtes cool, le texte défile, et d'un seul coup, vous vous laissez traverser par l'idée de... Je vais me casser maintenant, je vais m'en aller. J'ai pas envie. J'ai plus envie. Comme ce lion.
On retrouve tout de suite Niels Harestrup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
On peut défendre des voyous sans en être un, défendre des criminels sans en être un, mais peut-on défendre le pouvoir sans appartenir à son monde? Quand on est l'avocat d'un grand patron du CAC 40, qui prend l'ascendant sur l'autre? Dans Villa Caprice, qui sort en salle mercredi, le pouvoir est au cœur d'un duel très inattendu entre Niels Harestrup et Patrick Bruel. Celui qui perd le pouvoir est mort. Niels Harestrup, ces 20 dernières années, les plus grands cinéastes vous ont réclamé. Jacques Audiard, Bertrand Tavernier, Frédéric Schoendoerfer, Albert Dupontel, Volker Schlöndorff, même Spielberg. Bon, vos pères vous ont remis 3 Césars. Et pourtant, vous avouez, il m'a fallu presque 50 ans pour oublier la présence des caméras et leur œil qui entre dans le mien. Pourquoi avez-vous longtemps préféré l'œil du public, assis dans un théâtre, à l'œil des caméras dispersé sur un plateau?
L'œil du public, c'est les yeux du public. L'œil de la caméra, c'est la caméra. On peut avoir davantage peur d'une certaine intimité, d'une relation avec une personne, et avoir beaucoup moins peur d'une relation avec beaucoup de gens. Et moi, j'ai été très terrorisé par la conscience qu'oblige le cinéma. Le cinéma était... pour moi, un art qui réclamait davantage d'intelligence, de conscience, sur des petits modules très courts.
Et pourquoi davantage de réflexion, d'intelligence, de conscience?
De conscience,
par
oui,
rapport au théâtre. Conscience.
Parce que vous êtes encadré au cinéma, physiquement. Vous êtes encadré par le cadre, justement le cadre, par le fait qu'on vient vous remettre une mèche qui avait été légèrement décalée et qu'il faut, pour le raccord, qu'elle revienne à sa place. Et donc, tout vous entraîne à une espèce d'hyperconscience. Et c'est Jacques Audiard qui, lui aussi, était un peu comme Peter Brook, quelqu'un qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses.
Alors justement, Jacques Audiard, Niels Harestrup, dans votre carrière, il y a avant et après Un prophète de Jacques Audiard. Mais pourquoi dites-vous que Jacques Audiard n'est ni un homme, ni un metteur en scène comme les autres?
C'est d'abord quelqu'un qui, d'une certaine manière, je crois que le premier mot qui me vient à l'esprit quand je repense au travail qu'on a fait ensemble, c'est quelqu'un d'une exigence absolue. Et moi, j'aime ça. Enfin, j'aime qu'on soit très exigeant, parce que finalement, tout le monde peut faire le Mickey, comme ça, et jouer, ou faire une scène, et puis avoir l'air méchant, avoir l'air violent. Alors, c'est un peu à la portée de tout le monde, mais c'est pas ça qu'il veut, lui.
Il veut lui, que
veut-il? Lui, Jacques, veut autre chose. Il veut une sincérité, une honnêteté, absolue. Ne pas chercher à impressionner, mais d'être dans sa vérité, dans ta vérité à toi, dans la vérité du personnage que tu interprètes. Il est très exigeant, et en même temps, c'est un homme extrêmement amical, extrêmement chaleureux. Avec Jacques, on parlait beaucoup, mais on parlait pas du plan qu'on allait tourner, on parlait de la vie, on parlait de nos parents, souvent, parce que, bon, Jacques Audiard, on sait qu'il était le fils de Michel Audiard, qu'il est né avec des acteurs incroyables et prestigieux qui venaient à la maison, qui le prenaient sur les genoux et tout ça. Il a vécu dans cet univers-là. Et il a été en même temps, lui en tout cas, je peux me permettre, parce que je ne peux pas parler à sa place, et j'espère que ça ne gênerait pas en disant ça, il se sentait un peu perdu, un peu seul. Son père était tout le temps en tournage, à droite, à gauche. Voilà, et bon, bien sûr, il avait sa mère et les gens qui pouvaient l'entourer, et son frère, qui était très important pour lui, mais il se sentait très seul. Et moi, je me sentais très seul aussi.
Vous étiez un enfant unique?
J'étais un enfant unique.
De parents plutôt âgés?
De parents âgés, qui avaient dépassé la date de péremption, paraît-il. Et donc, ils étaient fatigués. Et ils ne voulaient pas d'enfants. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça a à voir pour Jacques, mais on aimait bien parler de nos parents. Et ce partage entre cette chaleur humaine que j'ai croisée avec Jacques et son exigence absolue, il était très, très dur hein, sur un plateau. Ce n'est pas rigolo du tout. au moment où on va tourner, il est même parfois très violent dans les mots.
Oui.
Et puis une fois que la prise est faite, on se retrouve et on parlait de notre père ou de notre mère, des choses comme ça. Et puis c'est un homme d'un extraordinaire talent quand même. Il n'aimait pas que je lui dise « tu es un directeur d'acteur formidable ». Il me dit « mais c'est quoi directeur d'acteur ?» Ça veut dire « directeur d'acteur ». Je lui disais « mais non, c'est pas forcément quelqu'un qui va te faire des lagus en disant « ton personnage il fait ça et ça ». C'est quelqu'un qui sait te montrer la direction. Et il avait ce don-là de mettre en place une atmosphère qui faisait qu'on savait où on devait aller.
D'ailleurs, dans Un prophète, dans lequel vous incarniez un terrifiant parrain qui régnait sur une prison, vous dites, pour l'anecdote, vous dites que, en fait, ce film vous permet vraiment d'être l'un des très très rares acteurs français qui puisse se balader en banlieue dans des zones plutôt insécures sans risquer quoi que ce soit, au contraire.
C'est peut-être passé maintenant, hein. Mais au moment où le film est sorti, oui, c'était possible.
Plus sérieusement, Nils Sérestrup, votre présence à l'écran, hein, je disais tout à l'heure, et je le répète, comme chargé d'une menace, et puis bon, ce magnétisme de grand fauve, entre calme apparent et explosivité potentielle soudaine, bah, ça nous fait parfois penser à la présence d'un Brando. Il paraît que Marlon Brando, quand vous aviez 23 ans, et qu'il tournait Dernier Tango à Paris, vous avez cherché à le rencontrer.
J'ai cherché à le voir.
À le voir.
C'était tout. Je savais qu'il était là. Il était à Paris. Il tournait le Dernier Tango, et donc j'ai été dans un... au studio de Boulogne, et je suis passé comme ça devant le gardien en me faisant passer pour un Américain qui parlait très très mal français, et on m'a indiqué un bureau qui était un bureau de production du Dernier Tango. Là, j'ai rencontré une femme qui était derrière sa machine à écrire. Je vais baragouiner dans un anglais impossible que j'étais un ami de Marlon Brando et que je voulais juste peut-être le saluer, parce qu'il m'avait dit « Si tu viens à Paris, n'hésite pas, viens me voir. » Et je voyais l'œil de cette femme qui me regardait en se disant « Mais il est complètement barré ce mec, mais on ne sait jamais, peut-être que c'est vrai. » Et donc elle m'a indiqué que ce jour-là, il tournait rue Vavin, et c'était les derniers plans du film. C'est là qu'il va mourir, sur le balcon, en Dernier Tango. Et qu'il finissait à 18h. Et donc après, j'ai été rue Vavin, j'ai pris un taxi, j'ai été rue Vavin. À 18h pile, les borgnoles se sont ouvertes. Hein. Les borgnoles sont ces rideaux noirs qu'on met pour que la lumière ne rentre pas. Et il est sorti, presque porté par deux femmes, je ne sais pas qui, peut-être son habilleuse, sa maquilleuse, je ne sais pas quoi. Et il a traversé la rue, et moi j'étais en face, près d'une caravane. Et donc j'ai eu l'honneur, la chance, de croiser son regard pendant 4 secondes, peut-être, pas plus. Il s'est arrêté comme ça.
Il s'est arrêté.
Oui, il s'est arrêté, mais enfin, et pas parce qu'en se disant hein, « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais parce que, voilà, j'étais vraiment face à lui, à côté de sa caravane.
Il a senti que vous l'attendiez.
Il a sûrement eu peur que je l'attende et que je commence à l'embêter, tout ça, mais j'ai baissé la tête, j'ai pas du tout eu envie de le déranger. Il est rentré dans sa loge. Mais c'est 3-4 secondes avec ce regard de cet homme qui m'intimidait, m'impressionnait, que j'admirais énormément. Voilà, je l'ai croisé et j'ai vu ce que c'était que la présence. Quoi. Ça, je l'ai, même pendant 4 secondes, je l'ai vu.
On retrouve tout de suite Nils Sérestrup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Nils Sérestrup, vous avouez, mes rencontres dans ce métier n'ont jamais débouché sur de vraies amitiés. Comment vous l'expliquez ?
Parce que c'est un métier de nomade. On part, on va ailleurs, on est dans un autre endroit, dans un autre pays, avec d'autres gens. Alors sur le moment, quand on est dans un film, quand on est dans une pièce, on est extrêmement proche, bien sûr, de ses partenaires. On partage tout, on rigole, on s'amuse ensemble, on est très proches, on est vraiment amis très proches parce qu'on fait quelque chose de difficile en fait ensemble. Et puis on part ailleurs, c'est du nomadisme. L'amitié, c'est quelque chose qui s'installe. Moi, j'ai eu quand même un ou deux amis hein, dans ma vie. Mais,
vous nous rassurez.
Ça mérite du temps.
Oui. Nils Sérestrup, c'est plus difficile de jouer avec des acteurs qu'on ne connaît pas ou avec des acteurs qu'on connaît ?
Ah, voilà. Je crois que c'est plus difficile de jouer avec des acteurs qui n'appartiennent pas à votre famille de jeu. Mais que ce soit la première fois ou que ce soit... Moi, dans Un prophète, Taha Rahim faisait oui. sans doute un de ses tout premiers films.
Oui.
Et je ne le connaissais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Il ne me connaissait pas davantage d'ailleurs. On s'est rencontrés avec Jacques, comme ça, on a bu un coup et tout. Et on a commencé, Jacques voulait qu'on commence à travailler sur une scène, se dire en tout cas le texte. Et instantanément, à partir du moment où il a commencé à parler, Wark, c'était un acteur. C'était un acteur extraordinaire. C'est un acteur extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour Taha. Il venait de sa vie, il venait de sa banlieue, il avait fait un petit truc à la télé, mais enfin pas grand chose. Mais il n'avait pas besoin de conseils, il n'avait pas besoin de prendre des cours, il était naturellement.
Ça me fait penser donc à ce que Tania Balachova a dit de vous la première fois qu'elle vous a vu jouer une scène dans son cours.
Oui, moi j'ai ressenti vraiment ça avec lui. Et il était gentil, il est gentil tard, très gentil. Donc après chaque plan, il me disait, tu crois que ça va, j'aurais peut-être dû... Je lui disais, mais tu rigoles, fais ce que tu sens, fais ce que tu veux, toutes les portes sont ouvertes. Surtout, commence pas à regarder ce que tu fais en te disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vas-y, il avait tout le talent du monde, il a tout le talent du monde.
Nils Arestrup, est-ce qu'il est faux de penser qu'un grand acteur peut tout jouer?
Ah oui, je crois que c'est faux, oui. Enfin, j'en sais rien.
Par exemple, j'imagine qu'à aucun moment de votre carrière, je me trompe peut-être, mais j'imagine qu'on n'a jamais osé vous proposer un rôle comique, voire humoristique.
C'est arrivé, oui. Il y a très longtemps. La frontière n'est pas là.
Où est la frontière?
La frontière, elle est dans sa propre vie. Dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a rencontré. Et il peut y avoir des domaines qui nous restent complètement étrangers. Et donc, je ne pense pas qu'un acteur puisse tout jouer. Le défi absolu pour moi, ce n'est pas de tourner dans une comédie, c'est de jouer le rôle d'une femme. C'est l'absolu impossible, l'absolu difficulté et en même temps l'absolu fascination.
C'est vrai, c'est une fascination.
C'est une fascination, jouer une femme. Ouais. Relever cette gageure-là, être dans cette sensation que vous connaissez, que moi je ne connais pas. Ce n'est pas ce qui vibre en vous, ce n'est pas du tout ce qui vibre en moi forcément. Et il y a des différences quand même. Et donc voilà, je m'étais dit un jour, le défi absolu, ce serait qu'on confie un personnage féminin, mais je pense que ça n'arrivera pas.
En tout cas, votre densité à l'écran, Nils Arestrup, fait qu'on vous a assez rarement proposé des rôles sentimentaux. Mais avec Villa Caprice, qui sort, je le rappelle, en salle mercredi, vous jouez vraiment sur un registre inattendu. Vous apparaissez invincible dans votre rôle d'avocat des puissants au début du film, et puis quand vous découvrez la manipulation et l'amitié feinte autour de vous, orchestrée par l'homme d'affaires qui vous a engagé, vous révélez une détresse qu'on ne vous a jamais vue. Une détresse comme lorsqu'on est trahi la première fois en amour. C'est ce que j'ai ressenti en voyant le film. On ne voit pas dans ce registre-là.
De toute façon, on ne peut se servir que de son vécu, hein, quand même, essentiellement, quand on joue. Donc, l'impression d'avoir été trahi, l'impression d'avoir été trompé, l'impression de s'être trompé, ce sont des choses qui sont en moi comme ils sont en tout le monde. Et donc, à partir de là, il faut juste ouvrir l'intérieur de soi, et ça vient tout seul. Cette impression d'être trahi, je pourrais la jouer à n'importe quel moment, parce que c'est là.
Et dans ce film, Villa Caprice, il y a ce grand voilier comme une métaphore magnifique, la promesse donc mensongère, qu'on peut tout recommencer, la promesse d'une autre vie sur des eaux vierges. Mais bon, dans l'histoire, il faut aller voir le film, les dés sont pipés. Et puis de toute façon, il y a un âge où on ne recommence jamais sa vie.
Oui, ça, je pense quand même que ça doit être rare en tout cas. Où on recommence des bouts de vie. Il y a des gens qui arrivent à l'âge que j'ai maintenant... Et qui d'un seul coup se disent « Ah, avant de partir, j'aimerais bien, je ne sais pas, faire des choses simples, m'occuper d'un potager ou découvrir la lecture, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, des choses comme ça.
Et vous, que vous dites-vous ?
On reconsolide un morceau de vie. Non, moi, je me dis pas ça. Je me dis rien, d'ailleurs. J'ai encore la chance d'être à peu près en capacité de travailler, donc c'est ma seule ambition.
Je retire le « à peu près ». Villa Caprice sort mercredi en salle. Vous y êtes absolument magistral. On retrouve Niels Harestrup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Niels Harestrup, avec une honnêteté que je trouve désarmante, vous avouez, on choisit un métier quand on a 20 ans et on est obligé de le faire encore 50 ans plus tard, ce qui n'est pas forcément du goût de l'homme qu'on est devenu. On s'était dit, ah, ça doit être génial la vie d'acteur, et puis le temps passe, et l'homme mûr n'est peut-être pas aussi emballé que le gamin. Alors je voudrais savoir, on l'entretient comment, la flamme ? Toujours autant envie ?
Oui, toujours autant envie de jouer, mais jouer comme à l'école, comme dans l'enfance. Je trouve dommage qu'on risque de perdre cette envie de jouer en grandissant. Moi, j'ai toujours envie de jouer. Je veux dire, j'espère que ça ne sera pas pris comme quelque chose de prétentieux, mais ma propre vie ne m'intéresse pas beaucoup. J'en suis content, je suis marié, j'ai des enfants, et c'est formidable. Mais l'intensité de ma vie, c'est le jeu.
Mais votre propre vie, vous ne l'habitez peut-être pas si souvent que ça, puisque vous jouez sans cesse.
Oui, mais non, je suis quand même très présent dans ma vie, mais j'ai beaucoup plus joué que vécu. Et donc, j'aime être autre chose, que moi. Voilà.
Il aime être autre chose que lui. Niels Harestrup, pour accepter un projet, il ne suffit pas que le scénario vous plaise, n'est-ce pas ? Il faut que vous ayez envie de passer 2 ou 3 mois avec le réalisateur et avec tous les acteurs. C'est important, ça, pour vous ?
Bah oui, bien sûr. C'est tellement intime. C'est quand même dangereux, quoi. C'est une autre responsabilité que celle de faire un film ou de jouer une pièce. C'est lourd, à tous les niveaux. Et donc, il faut être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde avec les gens avec qui on travaille, avec le réalisateur, mais avec tout le monde, avec les techniciens, avec les partenaires. C'est un peu comme un truc en bateau, quoi, justement. C'est un voyage, c'est un équipage.
Pourquoi dites-vous « j'appartiens à la dernière génération des gens qui peuvent avoir 50 ans de carrière » ?
Je ne sais pas, j'ai l'impression que les choses vont tellement vite maintenant. Les choses se démodent beaucoup plus rapidement, je crois, qu'avant. Et avec les chaînes de télévision, avec tout ça, on veut que ça se renouvelle tout le temps, on veut que ça bouge. Et c'est très bien, c'est une autre époque, c'est pas tout à fait la mienne. Mais j'ai l'impression que maintenant, pour qu'un acteur ou une actrice puisse avoir 50 ans de carrière, ce sera beaucoup plus dur que ça ne l'était pour moi. J'ai l'impression que ça va être difficile. Moi, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 72. Ça va être difficile de tenir aussi longtemps sans qu'on ne se lasse, et les gens, et vous-même.
Alors, cher Niels Harestrup, parmi les choses que vous aimeriez bien parvenir à faire dans les années qui viennent, il y a, paraît-il, et dans le désordre, apprendre enfin le danois.
Oui, c'est une utopie, un rêve, mais oui, mon père ne voulait pas m'apprendre. Il me disait que c'était une langue qui n'avait pas d'intérêt, qu'il fallait mieux que je travaille en anglais, que voilà, le danois, c'était, je parlais par 4 millions de personnes, c'était pas la peine.
Il y a tourné avec Lars von Trier.
J'ai rencontré Lars von Trier, et il faisait un film pour la télévision danoise, d'ailleurs. Et je ne pouvais pas. J'étais occupé, j'avais un autre projet, il a eu la gentillesse de venir à Paris, on s'est rencontrés. Mais j'ai pas pu faire son film. Pour la télé.
À suivre. Passer des vacances à Rome, en déambulant le nez en l'air dans ces ruelles.
Oui, parce que moi, j'avais l'impression que cette expression, tomber amoureux d'une ville, c'était un truc je ne prenais pas, un peu bizarre, un peu intello. Et quand j'ai été à Rome, quand j'ai passé quelques semaines à Rome, parce que j'ai tourné, j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'on pouvait tomber amoureux des pierres, on pouvait tomber amoureux de la lumière, on pouvait tomber amoureux des Italiens, des Italiennes, des Vespa, des scooters, de leur joie, du tiramisu, des spaghettis, et tomber amoureux de ça et d'un seul coup se dire j'adore. Et donc un de mes rêves en effet, c'est de retourner encore une fois à Rome pour y vivre un peu.
Et monter une pièce de théâtre en forme d'ode à la vie. Mais quelle pièce ?
Bah oui, ça c'était un rêve que j'avais aussi, c'était de recenser, et des gens m'auraient aidé pour ça, recenser tous les textes qui peuvent avoir rapport avec, entre guillemets, le bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on a écrit, les classiques ont écrit bien entendu là-dessus, et j'avais demandé à des contemporains, à des poètes, d'essayer de réfléchir à ça et de m'écrire des petits textes sur le bonheur. Et le premier texte que j'ai reçu, c'était celui de Charles Aznavour, qui avait eu la gentillesse de m'écrire un texte sur le bonheur quelques semaines avant qu'il disparaisse.
Cher Nils Aristrup, la meilleure raison, vraiment, d'aller dans une salle de cinéma mercredi, c'est pour voir Villa Caprice, un film de Bernard Stora dont longtemps, longtemps, nous, public, porterons en nous la charge magnétique. Je vous remercie infiniment, Nils Aristrup.
Merci beaucoup.